Donc, bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter les outils biologiques utilisés pour le suivi et pour le diagnostic et le suivi des incompatibilités fœto-maternelles. Outils qui vont permettre d'anticiper le risque fœtal et de pouvoir mettre en place, d'anticiper les moyens pour le suivi des grossesses à risque. Donc, tous les anticorps ne sont pas tous responsables d'anémie fœtale sévère. On connaît bien sûr l'anti-D, bien connu, responsable d'anémie fœtale sévère précocement dès 15 semaines d'aménorrhée. Mais il y a également l'anti-quel, moins fréquent mais tout aussi redoutable, avec des anémies fœtales précoces. Également l'anti-petit C, où les anémies se développent un petit peu plus tardivement à partir de 20 semaines d'aménorrhée. Et puis, de façon plus rare, surtout au troisième trimestre, avec des taux d'anticorps importants, il ne faut pas oublier l'anti-grand E. Et de façon plus exceptionnelle, tout de même, l'anti-petit E, du FIA, JKA, KPA et anti-grand M. Donc, quels paramètres vont influencer le risque hémolytique chez la femme enceinte? Donc, comme on vient de le voir dans le tableau précédent, la spécificité de l'anticorps qui va être déterminée par la recherche puis l'identification d'agglutinine irrégulière. Ensuite, l'affinité de cet anticorps qui va être différente d'une spécificité à l'autre. Et cette affinité va être donnée par le titrage en Coombs indirect sur hématine native. Et puis, troisième paramètre, bien sûr, la concentration en anticorps, très importante, qui peut être très variable de quelques nanogrammes jusqu'à 100 microgrammes par millilitre. Alors, cette concentration est déterminée de façon assez précise pour le dosage pondéral, pour notamment les anticorps du système Rhesus. Et cette concentration est approchée seulement grâce au titrage pour l'ensemble des anticorps. Enfin, on peut observer parfois que la concentration, malgré une concentration élevée, l'impact clinique peut être différent d'un fœtus à l'autre. Et dernier paramètre pouvant influencer le risque hémolytique, c'est le pouvoir d'activation des récepteurs fragments FC des immunoglobulines. Donc ce pouvoir d'activation va être fonction de la sous-classe de l'anticorps et de la glycosylation de son fragment FC. Et ce pouvoir d'activation peut être déterminé par des tests fonctionnels de type ADCC. Donc les techniques de quantification des anticorps que nous utilisons au CNRHP, tout d'abord la technique de titrage. Donc la technique de titrage, la technique de référence, c'est la technique en Coombs indirect en tube en milieu de force ionique normale à 37 degrés. Donc il y a deux lectures, une première lecture directe qui va permettre de déterminer s'il y a ou non la présence d'immunoglobulines de type IgM qui ne passe pas la barrière placentaire, donc non dangereuse, puis dans un second temps l'addition d'une antiglobuline permet de donner le titre en Coombs indirect. Et la lecture macroscopique des agglutinats va permettre de donner un score. Ce titrage, bien sûr, est réalisé en parallèle d'un témoin et une comparaison avec le sérum précédent de la patiente permet d'évaluer s'il y a une réelle évolution du titre. Donc ce titrage va nous donner le reflet de la concentration et de l'affinité de l'anticorps. Alors, dans cette diapositive présentée à la SFTS en 2011, je voudrais attirer votre attention sur les difficultés de corrélation entre les techniques de titrage, donc entre le titrage en tube et le titrage en support solide, puisqu'on a remarqué que le titrage en support gel augmentait de façon peu reproductible le titrage des anticorps, sauf pour les antiquels MNS1 et JK1. Donc, avec ce type de technique en support gel, il peut y avoir une sous-estimation du risque fœtal. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas utiliser ces techniques, mais il faut, dans ce cas-là, revoir les seuils décisionnels, les seuils critiques à partir duquel il y a un risque d'anémie fœtale. Deuxième technique utilisée au CNRHP, la technique de dosage pondéral. Technique d'hémagglutination en flux continu utilisée pour le dosage des anticorps du système rhésus et certains antipublics. Ce dosage pondéral va permettre de donner une concentration assez précise en anticorps. C'est une technique lourde avec un CV allant de 5% à 20%. Alors au CNRHP, les automates utilisés, donc c'est un auto-analyseur depuis les années 70, c'est le Technicon, toujours en activité. Et puis, le renouvellement d'automates a permis d'associer au Technicon de nouvelles chaînes, la chaîne Alliance dans les années 2000, et puis la chaîne Astoria qui est en cours de validation depuis l'année dernière. Donc, quand on le rend à un dosage d'anticorps par un dosage pondéral, on rend deux résultats. Tout d'abord, une variante de temps, où les hématies tests sont traitées au préalable par la broméline, qui va permettre un rendement de fixation des anticorps. Et cette concentration en deux temps va nous donner un résultat proche de la concentration réelle en anticorps, IgM, IgG confondus. Par contre, la variante un temps, là, la broméline est introduite directement dans le circuit de l'auto-analyseur, qui va détruire les IgG de sous-classe 3, et ce qui va permettre un dosage plus spécifique des immunoglobulines de sous-classe IgG 1, de plus haute affinité et plus dangereux en anténatale. Donc, d'autres techniques de quantification, donc on en a parlé, ce n'est pas vraiment une quantification, c'est un test fonctionnel, les tests d'ADCC, de tests de cytotoxicité dépendant de l'anticorps, réalisés pendant plusieurs années au CNRHP, puis abandonnés. Ces techniques vont permettre de mesurer la capacité des anticorps à induire une lyse ou une phagocytose des globules rouges sensibilisés. Bon, c'est une technique lourde à l'époque qui utilisait des radioéléments et qui était utilisable pour tous les types d'anticorps. Deuxième technique de quantification qui va mesurer la capacité totale de fixation des anticorps sur leur cible, c'est l'ELISA, qui est en cours de mise au point au CNRHP, une technique rapide, sensible, spécifique et reproductible. Donc, qui va donner deux intérêts pour le dosage des anti-D. Il va donner une mesure intéressante entre 24 nanogrammes et 100 nanogrammes. C'est une zone où le microtitrage et le dosage pondéral donnent des résultats un petit peu moins précis. Et puis, c'est une technique utilisable aussi également pour les antiquels qui ne peuvent pas bénéficier du dosage pondéral. Enfin, la cytométrie en flux, qui est une perspective pour le CNRHP, donc avec un dosage grâce à une courbe d'étalonnage par un marquage indirect avec une antiglobuline couplée à un fluorochrome, la FITC, qui permettrait également de doser les sous-classes d'immunoglobuline IgG1 et IgG3. Alors, une technique particulière pour les anti-D, la technique de microtitrage, qui a été mise en place au CNRHP en 1999 et automatisée depuis 2007. Donc, c'est une technique d'hémagglutination en support gel et qui est utilisée pour le dosage des faibles taux en anti-D. Donc, c'est une technique qui est assez adaptée pour le suivi de la prophylaxie rhésus, puisqu'on va pouvoir doser de façon assez précise les antidés passifs résiduels. Donc, cette technique de microtitrage permettre de savoir si la quantité d'anticorps circulant chez la femme enceinte est suffisante pour protéger contre une immunisation anti-RH1, puisque, je rappelle, il faut un apport d'IgG anti-RH1 supérieur ou égal à 20 microgrammes par millilitre de globules rouges RHD positifs pour obtenir une efficacité très satisfaisante de la prophylaxie. Enfin, ce microtitrage va pouvoir répondre à un des grands pièges de l'identification d'anti-D chez la femme enceinte qui aurait bénéficié d'injections de Rofilac au cours de sa grossesse, puisqu'il n'est pas rare de voir des confusions entre un anti-D passif par rapport à un anti-D humain, et seul le microtitrage va permettre de pouvoir trancher, puisqu'on va pouvoir comparer un anti-D mesuré dans le sérum maternel par rapport à des concentrations attendues suivant des ABAC. Si cette concentration est bien supérieure à celle attendue, on va pouvoir suspecter une immunisation anti-D et mettre en place un suivi approprié. Il faut savoir qu'à partir de 24 nanogrammes, il est préférable de passer au dosage pondéral un petit peu plus précis. Alors, pour évaluer le risque d'atteinte fœtale, ce qui est primordial, c'est de connaître le phénotype du fœtus qu'on va pouvoir déduire à partir des techniques de génotypage fœtal. Donc, avant 1998, les techniques étaient de type invasive sur du liquide amniotique, des villosités coriales ou des biopsies trophoblastes. Et donc, le génotypage était réalisé pour les gènes RHD, petit c, grand E, quel 1. Et c'était indiqué dans les immunisations sévères avec un géniteur hétérozygote, avec le risque de réactiver les immunisations lors de ce geste. Après 1998, les techniques non-invasives ont été développées et qui feront l'objet d'une présentation, de la présentation qui va suivre. Donc je ne développerai pas ça ici. Alors en pratique, pour le diagnostic et le suivi biologique des alloimmunisations antirétrocytaires chez la femme enceinte, donc un petit tableau synthétique sur les anticorps à risque d'anémie fœtale sévère. Donc un dosage pondéral va être préconisé à partir du titre, d'un titre au 8e pour les anti-D et les anti-grand E, un titre un petit peu plus faible pour les anti-petit C. Vous comprendrez plus pourquoi dans la présentation sur les anti-petit C, les immunisations anti-petit C, anti-quel qui va suivre ce matin. Les réactivations fréquentes pour les anti-D et les anti-petit C vont définir des fréquences de dosage plus fréquents pour ces anticorps toutes les 2 à 4 semaines chez la femme enceinte. Et pour les anticorps qui se réactivent moins fréquemment et surtout au troisième trimestre, une fréquence de dosage écartée à tous les mois est suffisante. Enfin, les 40 années d'expérience du CNRHP et le recul avec toutes ces patientes suivies ont permis de définir des taux critiques, des seuils décisionnels à partir duquel il y a un risque d'anémie fœtale sévère, et lorsque ces seuils sont dépassés, il y a nécessité de mettre en place notamment des vélocimétries à l'artère cérébrale moyenne pour s'assurer de l'absence de signes indirects d'anémie fœtale. Donc pour l'anti-D, le seuil critique c'est le 1 microgramme 205 unités CHP. Pour les anti-petit C et anti-quel, pardon, ça vous sera présenté également dans une présentation ultérieure. Donc schématiquement, lorsque il y a une alloimmunisation avec un anticorps à risque d'anémie fœtale sévère, le schéma de prise en charge, une fois l'identification faite, donc bien sûr cet anticorps va être titré et dosé. En parallèle, un génotypage fœtal ou à défaut le phénotypage du conjoint va être utile, puisque un résultat négatif va permettre de lever toute surveillance, tandis qu'un résultat positif en fonction du titrage dosage va permettre de légitimer une surveillance. Donc si on est en dessous des taux critiques, surveillance échographique standard avec un titrage dosage toutes les 2 à 4 semaines. Par contre, dès que les taux sont supérieurs aux taux critiques à risque d'anémie fœtale, là il va y avoir une surveillance hebdomadaire avec vélocimétrie Doppler et un titrage dosage rapproché tous les 15 jours. Enfin, à la naissance, bien sûr, un bilan d'incompatibilité fœto-maternelle doit être fait chez le nouveau-né. Merci de votre attention.